raison et à la mémoire, qu'il se demanda s'il n'était pas lié. L'apothicaire crut vraiment avoir perdu la tête. La bouche grande ouverte, il fit quelques pas en arrière, titubant, et se laissa tomber sur le banc près de la grande table. Il resta là un long moment, muet, interdit, et il eut beau analyser la chose sous tous les angles possibles, la passer au crible de la logique aristotélicienne, la réduire aux plus simples entités, rien n'y faisait. Il était tout simplement incapable d'expliquer ces deux mystères surgis le même jour. Cette fois, Andreas se refusa à parler de sa découverte à ses valets, et beaucoup plus tard, quand il partit enfin se coucher, il éprouva bien de la peine à s'endormir, se remémorant une phrase du Dialectica d'Abélard. « On ne peut croire ce qui ne se comprend pas. » Chapitre 15. Le lendemain matin, Andreas fut attiré au dehors par des cris qui venaient de la rue. Il avait neigé toute la nuit, les toits et les rebords des fenêtres étaient drapés d'une soyeuse couche blanche et le pavé couvert d'une boue visqueuse et glissante. Les enfants, pourtant, jouaient obstinément à la crosse sur les bornes qui, en haut de la chaussée, délimitaient les différentes censives du quartier. À quelques pas de sa boutique, l'apothicaire découvrit l'attroupement qui provoquait tout ce raffut et comprit que cela venait de la petite maison où travaillaient Magdala la Ponente et les deux autres fillettes. Toutes les trois sur la chaussée, elles houspillaient quatre hommes qu'Andreas put identifier comme étant l'échevin Étienne Bourdon et trois jurés. La situation visiblement s'était envenimée et les trois jurés semblaient prêts à en venir aux mains. La rue s'était couverte de curieux. L'apothicaire passa sa capuche sur son crâne chauve et accéléra le pas, se frayant un chemin entre les badauds que la querelle semblait amuser. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ? » demanda-t-il en posant une main ferme sur l'épaule de l'échevin. Andreas, à son grand regret, connaissait bien Étienne Bourdon. Un homme qui avait une façon très personnelle de faire appliquer la justice municipale de ce côté de Paris. Chaque fois que l'apothicaire avait eu un souci avec les maîtres de sa profession, et comme on l'a dit, c'était assez fréquent, l'échevin était intervenu en sa défaveur, comme s'il nourrissait lui aussi quelque jalouse inimitié à son endroit. Ici, le lecteur nous pardonnera si, afin de l'éclairer sur notre récit, nous nous permettons une légère digression pour lui dire sommairement, au cas où il ne le saurait pas déjà, ce que représentait alors un échevin. Depuis la nuit des temps, il existait à Paris une anse, entendez, une association, dite des marchands sur l'eau, qui détenaient le monopole de l'approvisionnement par voie fluviale. Or, le commerce fluvial ayant pris au cours des derniers siècles une importance fort grande, la dite association devint la plus puissante de la capitale et finit par se charger non seulement de la réglementation de tout le commerce parisien, mais aussi de l'administration de la municipalité. Ainsi, à la fin du XIIIe siècle, le dirigeant de la Hanse fut nommé prévôt des marchands, et obtint le privilège de l'ordonnance des cérémonies publiques, de l'entretien de la voirie, du percement des rues, de la construction des monuments, etc. Le rôle politique de la Hanse devint de plus en plus conséquent, qui défendait les privilèges de la bourgeoisie près du roi. On notera pour l'anecdote qu'au temps d'Andreas, la Hanse, dirigée par un certain Guillaume Pisdeau, tenait ses réunions au parloir aux bourgeois près du Châtelet. Mais que le dit parloir fut ensuite transféré place de grève, et prit le nom d'hôtel de ville. Le lecteur comprendra aussi sans doute pourquoi le blason de la ville de Paris représente un navire marchand, avec sa devise « Fluctuat nec mergitur ». Enfin, et c'est là que nous voulions en venir, le prévôt des marchands était assisté dans sa charge par quatre hommes, quatre échevins, dont on comprend mieux à présent le pouvoir et l'importance, mais explique aussi le peu d'amour qu'éprouvait notre apothicaire à leur endroit. « Nous sommes venus expulser ces trois catins. » expliqua Bourdon, visiblement ennuyé par l'intervention de l'un des hommes les plus respectés du quartier. « Et pour quel motif ?»« Non pas que cela vous regarde, maître Saint-Loup, mais elles ne se sont pas acquittées de leur fond de terre. »« C'est faux !» s'exclama Magdala, les yeux rouges de fureur. « C'est un canard, on a toujours casqué la douille !»« Tais-toi la putain !» rétorqua l'un des jurés en la menaçant du revers de la main. « Par sanguier, que l'as te foute !» répliqua-t-elle. « Allons, allons, il y a de toute évidence un malentendu,